L'atelier est le 15e du genre. Il est consacré pour les 5 séances qui viennent à la sculpture antique ou aux sculptures antiques. Certains d'entre vous connaissent bien ces ateliers pour y avoir été déjà de nombreuses fois, d'autres moins. Alors je voudrais, comme je vais toujours en début de séance, rappeler les petites règles qui sont les nôtres et qui sont importantes. Les règles, c'est d'abord le fait que il ne faut pas hésiter dans ces ateliers à prendre la parole, mais à ne pas la monopoliser. L'idée, c'est que tout le monde puisse intervenir, pas que certains seulement parlent, ne pas monopoliser la parole. Nous avons à chaque fois un petit plan autonome à chaque cours que nous suivrons, une petite méthodologie. C'est important, nous sommes ici des historiens de l'art, de travailler avec des critères qui ne sont pas des critères esthétiques subjectifs, mais bien scientifiques, et bien sûr, Internet n'est pas autorisé, donc vous rangez tous vos iPads et autres merveilleux instruments qui nous enrichissent tant notre vie quotidienne. J'ai mis comme d'habitude connaisseurs s'abstenir. Je ne sais évidemment jamais dans ces séances si les œuvres qui sont les sujets des séances en question sont connues de vous ou pas. Aujourd'hui, par exemple, peut-être que ce que je vous montrerai, certains d'entre vous connaissent très très bien l'œuvre en question. Hein, c'est possible, et ça, je ne peux pas le savoir. C'est pour ça que je dis toujours aux connaisseurs de s'abstenir, tout simplement parce qu'autrement ils vont mouiller le pétard, et pour les autres membres de l'équipe, ces séances n'auront guère d'intérêt. Donc je vous remercie de faire attention à cela. Voilà, je pense que tout cela est à peu près clair pour vous, et je vous propose que nous commencions cette séance tout de suite. Et nous allons débuter par un premier chapitre. Une première partie avec ceci. Voilà l'œuvre que je soumets à votre sagacité. Alors, voilà l'œuvre sur laquelle nous allons travailler. Il y aura d'ailleurs d'autres éléments, vous allez le voir dans un instant. Je voudrais que vous parliez de ce que vous avez sous les yeux. D'abord, comme d'habitude, qu'on en parle sur un plan technique. De quoi s'agit-il avant de s'enfoncer sur l'iconographie, qui sert à nous intéresser? Je voudrais d'abord voir ce que l'on a sous les yeux. Qu'est-ce que c'est physiquement que cette œuvre que vous découvrez à l'écran?
Un bas-relief.
Alors, c'est un relief, oui. Un bas, un haut?
Un bas.
Oui, difficile de dire, parce que certaines parties sont quand même très détachées. Hein. Bon, donc il y a certaines parties qui sont plutôt un bas-relief, d'autres qui semblent être un haut. Dans ces cas-là, c'est plutôt le haut qui gagne, si j'ose dire. En tout cas, c'est un relief. Bien. Très bien. En marbre, sans doute. Ouais. C'est du marbre, effectivement. Donc, un relief, plutôt un haut relief en marbre. Vous avez peut-être une idée de la taille, évidemment, sur une photo comme ça, c'est très difficile à dire, mais je crois, est-ce qu'à vue de nez, vous avez une idée? Comme le bureau, à peu près, assez grand, oui. Oui, c'est à peu près de cet ordre-là, effectivement. Hein, c'est bien. Pardon?
Sur un sarcophage?
Sur un sarcophage, ça ferait penser à un sarcophage. Peut-être. Qu'est-ce qui vous permet d'envisager une telle
possibilité? La forme, les colonnes sur le côté.
Parce qu'on devine effectivement sur le côté des colonnes, entre guillemets. Ouais. Avec quoi dans la partie supérieure d'ailleurs?
Mais des chapiteaux.
Donc on a l'impression effectivement qu'il y a à chaque côté deux colonnes. Si ces colonnes sont plates, ça s'appelle comment d'ailleurs?
Pilastres.
Voilà, des pilastres. Hein, c'est qu'une colonne, c'est rond, enfin la section est ronde, circulaire, une colonne est cylindrique, si vous voulez, alors qu'un pilier ne l'est pas, donc c'est plutôt, effectivement, sans doute des piliers ou des pilastres. Un pilastre est engagé, c'est-à-dire, on ne peut pas tourner tout autour. Bien, très bien. On peut peut-être maintenant commencer à regarder ce que ça représente. Quelle est l'iconographie qui apparaît dans l'œuvre que vous avez sous les yeux? Qu'est-ce qu'on voit?
Trois femmes.
Trois femmes.
Des divinités.
Ou les dames.
Ou les dames, ou le cygne. Des animaux symboliques.
des animaux symboliques. Alors, peut-être qu'avant de passer dans l'interprétation, qui va peut-être nous amener des surprises, peut-être effectivement on peut déjà décrire ce que l'on voit.
Trois femmes, des jumeaux, une mère.
Alors, je sais pas, on va peut-être commencer par un bout, si j'ose dire, ça peut être le centre, hein, puis ordonner un peu notre voix. Pour commençons par le centre, allons-y.
C'est une mère.
Une mère, en tout cas une femme avec deux enfants.
Deux jumeaux.
Qui ont l'air d'être deux jumeaux.
Oui.
Bon.
C'est
romain. Ok. Bien. Et puis, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a donc cette femme avec deux enfants, elle est assise, bien.
À ses pieds, il y a des animaux. Un taureau et un mouton.
Okay.
Puis des fruits sur ses...
Alors, à droite, qu'est-ce qu'il y a ? Un dragon, quelqu'un dit un animal marin. Pourquoi un animal marin ?
Parce qu'il y a comme des vagues en dessous.
Parce qu'il y a des vagues en dessous. Donc effectivement, une sorte de dragon ou d'animal marin.
Une wivre. Oui,
qui sert de socle à qui ? À quoi ?
À une femme.
Donc une femme assise sur une sorte d'animal marin, un peu fantastique, pourrait-on dire.
Okay. Et un coquillage ? Elle est dans une coquille.
Vous voyez une coquille à quel endroit ?
Non, c'est un drapé. C'est un drapé.
C'est le drapé. Hein.
Et un palmier aussi, à gauche. Ou un genre de palmier.
Un palmier ?
Oui, enfin quelque chose. Une palme.
Oui.
Alors qu'à droite, c'est plus.
Une plante, en tout cas, oui. Et alors à gauche, qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'on a décrit la femme de droite sur son monstre marin, dirons-nous.
Un signe.
Et une femme assise sur un signe. D'accord. Bien. Alors voilà effectivement ce que représente ce relief, d'à peu près, je ne sais pas, 1,50 m de long, plus ou moins. Ok. Qu'est-ce que vous suggère cette iconographie ? Une femme assise avec deux enfants, peut-être des jumeaux, deux femmes de chaque côté, l'une sur un cygne, l'autre sur un animal marin. Au pied de la femme centrale, il y a deux animaux. Est-ce qu'il y a quelque chose, une interprétation qui peut-être vous viendra à l'idée en voyant ce relief ?
Une représentation de Rome,
c'est-à-dire que la figure centrale serait Rome. Qu'est-ce qui pourrait nous faire voir qu'il s'agit de Rome ?
Les jumeaux, Rémus et Rémus,
qui font penser à Rome, ok.
En tout cas, elle est supérieure aux autres en taille.
Ah, elle est effectivement supérieure aux autres en taille. Elle a une taille plus importante que les autres. Les autres sont plus petites, effectivement. Et les animaux encore plus, d'ailleurs. Hein.
Ouais. Et elle est voilée, elle.
Elle est voilée. Mm-hmm. Effectivement. Donc on aurait une représentation de Rome, une sorte d'allégorie de Rome.
Je pense pas, parce que sinon il y aurait plutôt la louve.
Il y aurait la
louve. Si c'était Rome. Il n'y a pas la louve. Voilà, c'est... On dirait plutôt Castor Pollux, quelque chose comme ça.
Jumeaux, on n'a pas de jumeaux.
Est-ce qu'il y a eu des jumeaux ? Apollon et puis...
Les taux, effectivement, oui. Donc les taux, peut-être, avec ses enfants qui sont des jumeaux.
Puis à gauche, c'est...
Léda et Signe, qui viendraient voir... Romulus et Rémus. Entre voisins, elle a sûrement des tas de choses à raconter, Léda. À mon avis. Hein.
Ça marche pas.
Et alors à droite, parce que vous parlez beaucoup de cette femme sur le signe qui vous inspire beaucoup, mais à droite, bof.
C'est une sorte d'animal marin, un triton.
C'est comme ça, un triton ?
Non, c'est comme un triton.
Un triton mythologique, hein. Je parle pas des tritons dans nos mares à nous.
Enfin, ça peut être.
C'est une œuf de la mer.
Une œuf de la mer, ça serait une évocation d'une œuf de la mer parce qu'elle est sur un animal marin.
Il y a la mer dessous.
Au milieu, la terre.
C'est l'animal marin, il s'enroule un peu comme une sorte de serpent. Il a une espèce d'aile, effectivement. C'est vraiment un drôle d'animal marin, pas très réaliste, on va dire. Hein. Okay. Donc si je résume, on aurait là une évocation d'une figure allégorique au centre qui serait peut-être Rome, portant Romulus et Rémus, avec de chaque côté deux figures, peut-être à gauche Léda qui passe par là, qui vient dire un petit bonjour, et puis à droite une nymphe maritime qui débarque sur son monstre marin. Ça vous va, ça ?
L'air, la terre, la mer.
On aurait l'air, la terre, la mer. Okay.
On appelle le feu.
C'est le taureau qui vient faire quoi?
Le
taureau, c'est Europe. Ah, le taureau, c'est la terre?
Et il y a les plantes au-dessus.
Et en dessous.
C'est assez abondant.
C'est très rustique cet ensemble. Vaches, moutons et vignes.
Pourquoi c'est la différence de taille?
Donc quelque chose de très rustique avec évidemment une différence d'échelle. Hein. Vraiment, la figure importante, elle est au centre. D'abord, elle est au centre, hein, mais ensuite, elle est plus grande que les autres. Hein. Ok.
Elle est abîmée.
Est-ce que vous avez encore d'autres remarques sur ce relief-là?
Moi, je
donne
ma langue.
Oui. Donc, j'ai quand même à peu près noté qu'il y avait deux voies. Hein. La première, c'est Rome avec Romulus et Rémus, Léda et quelques divinités marines à droite. La deuxième solution était plutôt une allégorie avec la terre au centre, l'air à gauche, l'eau, la mer à droite, et une dimension très rustique avec des animaux et des végétaux qui évoquent cette rusticité pastoralisante hein, que les animaux au premier plan évoquent.
C'est une pièce antique, vraiment.
C'est une pièce antique.
Non, parce que labourage et pâturage.
Ah oui, labourage et pâturage. Ah oui, mais Henri IV reconnaissait ses grands classiques. Hein, voilà.
Alors la question, c'est féminin aussi.
Pardon ?
C'est essentiellement féminin.
Ah, c'est très féminin, oui.
Parce que c'est lié à la maternité.
Oui, alors ben justement, on peut se poser ces questions-là. Alors, est-ce que c'est grec ? Est-ce que c'est romain ? On va parler de sculpture antique. Hein. Alors, du grec et du romain, on risque d'en voir un peu durant ces 5 séances. Hein. Et puis vous dateriez ça de quand? Alors d'abord, grec ou romain?
Romain.
Romain. Allez, on va dire romain. Et une date peut-être?
Deuxième siècle.
Avant ou après?
Avant ou après?
Deuxième siècle avant Jésus-Christ?
Non, après.
Deuxième siècle après?
Premier ou deuxième siècle après?
Ouais. Alors on est avant ou on est après d'abord Jésus-Christ?
Avant.
Ah. Après. Bon, je sens comme un petit flottement. Là, on hésite entre le avant et le après, on hésite entre le premier et le deuxième. Bon, mais c'est romain, tout le monde est OK avec ça. Personne ne voit quelque chose de grec, là, non.
Sauf le nez.
Ah, le nez. Bien. Bon, on a déjà pas mal épuisé cette affaire-là. Hein. On va voir tout à l'heure ce qu'il en est. Il se trouve que le relief que vous voyez là appartient à un ensemble sculpté dans lequel il y a d'autres éléments, d'autres choses. En particulier, ceci.
Oh, ça c'est un étonnant. Oula.
Il y a encore des animaux.
Ça, c'est un sacrifice.
Bah, oui. Alors, qu'est-ce que vous voyez?
Un sacrifice.
Est-ce que vous pouvez... Alors, un sacrifice, OK, mais moi, il faut me décrire. Vous savez, je suis un peu lent. Hein. Donc, il faut bien me décrire le truc. Quoi, pour,
c'est ce qu'on appelle le
swaoué. Non, ça peut être une offrande de la part.
Une offrande, alors qui offre quoi? Décrivez déjà ce que vous voyez. Vous savez, quelquefois, il faut d'abord décrire. Une fois qu'on a décrit, on interprète. Parce que si on va pouf dans l'interprétation, on risque peut-être d'avoir des...
Il y a un trésor, une chasse.
Trois personnages. Il y a trois personnages. Bien.
Il y a un trésor.
Il y en a trois.
Il y a une chasse.
Une chasse
ou un trésor. On dirait un trésor.
Vous parlez de ça.
Ouais.
Hein? Bon, mais vos trois personnages, qu'est-ce qu'ils font?
Un dieu à droite.
Un dieu à droite.
Il y a un supérieur à droite.
Quelqu'un d'important. Un dieu ou un prêtre. Ok.
Et les autres apportent
quelque chose. Une coupe avec des fruits. Et puis un animal.
Un porc.
Un porc.
Un mouton.
Un mouton.
Non,
un veau.
Ça peut être un mouton un petit peu dodu, hein. Interdit. Hein. Un porc ou un mouton, bien.
Donc, ah, on a... Il y a une amphore aussi dans la main.
Oui, là, un vase, en tout cas, une cruche. Hein.
Oui,
ok. Et au-dessus, vous avez dit qu'il y avait un petit temple, une petite chasse, quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs dans cette chasse ?
Des personnages.
On en voit un. Oh, évidemment, il y en a un autre là. Il semble qu'il y en ait deux. C'est pas très visible. Hein.
Non, pas trop.
Ok.
Il y a quelque chose d'écrit aussi.
Il y a quelque chose d'écrit ? Où ça ?
Au-dessus là, sur la fesse.
Non,
non,
ce sont des pierres. Non, ce sont des pierres simulées.
Là ?
Non, ce sont des pierres.
Je ne crois pas, mais bon.
Des pierres simulées.
C'est peut-être une, un effet d'optique. Bon, c'est tout.
Il y a un quatrième personnage, mais il a été.
Vous me l'avez oublié, celui-là.
Sa main, oui. Ah, oui.
Parce que là, vous voyez la main de quelqu'un, enfin, et l'épaule et l'habit de quelqu'un. Il y avait un quatrième personnage ici. Il n'est plus là, mais enfin, il y en avait un quatrième. Ils ne sont pas trois, ils sont quatre. Mais vous savez, tout ça est un peu vieux quand même, hein, donc c'est un peu cassé. Hein. Donc il y a parfois des manques. Va falloir s'habituer hein, dans ces ateliers autour de la sculpture
antique. Est-ce qu'il n'y a pas deux animaux superposés ?
Ah, il y a deux animaux ?
Est-ce qu'il n'y en a pas deux ?
Oui.
Pour ça que ce mouton serait un peu gros. Hein. Parce qu'ils sont deux.
Il y a quelques jambes.
Ils sont les deux jambes.
Bon, donc peut-être deux animaux. Autrement dit, je résume. On a un personnage à droite visiblement important, Dieu ou prêtre. Deux autres personnages qui lui amènent des choses, notamment une sorte de coupe avec des choses dedans. Et un animal, porc ou mouton. Il y a en haut à gauche une sorte de petit temple qui apparaît, ou de chasse, et puis à droite du personnage principal, les restes d'un quatrième personnage, hélas largement disparu, mais qui fermait la composition à droite.
Il alors cette scène... Ce qu'il tient, est-ce que c'est pas une houlette de berger ou quelque chose
d'approchant ? Oui, ça fait, oui.
Dans quelle main ?
Il a la main du bâton dans la main.
Oui, c'est une sorte de...
Ici, alors ?
Oui, ben, voilà, c'est une sorte de cage. Voilà. Oui, c'est une sorte
peut-être,
de...
Effectivement, ça ressemble à ça.
Pourquoi cette ligne verticale au milieu ? Ça donne... On dirait qu'on a rapproché deux choses.
Qu'est-ce que c'est que cette ligne verticale au milieu ?
Oui, c'est des traits du temps.
C'est un angle.
Un angle ?
Ah, ça aurait été...
C'est vrai, il y a une ligne verticale au milieu.
Oui, mais c'est comme
ça. Ah, pourquoi ? Ah, on a plié le marbre. C'est pas facile, mais enfin, si on y met du sien.
Cependant, c'est quand même une même et unique
ouais. Représentation, quoi. Une scène. Oui, oui, oui. Alors, pourquoi cette ligne au centre ?
C'est le bâtiment.
C'est le bâtiment.
C'est
l'arrêt du bâtiment. C'est un angle. En fait, c'était pas fait pour être côte à côte. Il y avait un angle. Et...
Non, mais c'est
non, il y a
on change de lieu.
Ah, il y a un personnage à l'intérieur. C'est-à-dire que là, on serait... Dedans, là on serait dehors peut-être, ou l'inverse.
Ou l'inverse,
l'entrée. Ou l'inverse, bon. Voyez d'autres possibilités pour cette ligne verticale centrale ?
Mais il n'y a pas que la ligne, il y a l'ensemble.
Il y a l'ensemble, c'est-à-dire ?
Oui, on dirait deux blocs différents.
Ah, oui, deux blocs différents.
Est-ce qu'ils n'étaient pas, hein,
pas la même époque ? Ouais,
ouais. Angle droit ?
Oui,
c'est ça. Oh non.
Non, pas vraiment.
Pas vraiment.
Non, c'est...
À angle droit, ça paraît entre nous un petit peu difficile parce que ouais, ça voudrait dire que la scène se continue sur un mur perpendiculaire au précédent.
Non.
On a un peu de mal à jouir de la vision de l'ensemble. Hein. Non, mais je fais tout simplement ce que vous avez dit à l'instant, c'est-à-dire que c'est deux blocs différents, c'est-à-dire que c'est quand même assez grand. Hein. Mm-hmm. Vous avez déjà taillé du marbre ?
Non.
Ça demande un peu de... Enfin, voilà, c'est... Hein. Donc, souvent, hein, quand on fait des reliefs comme ça assez importants, ça, vous savez, c'est à peu près grand comme la table. C'est un petit peu plus grand. Hein. Ça fait à peu près 2 mètres de large, ça. Mm. Bah, c'est... Enfin, quelquefois...
Est-ce que c'est pas quelque chose qui court autour d'un temple ?
Ah, on va voir, peut-être. Mais effectivement, quelquefois, plutôt que de sculpter un gros bloc énorme, bah, vous en sculptez deux. Alors évidemment, ils se sont mis côte à côte, c'est bien droit. Mais on voit quand même toujours une petite ligne au centre, quoi. En fait, vous avez deux blocs, même peut-être plus. Je ne serais pas étonné que là, il y ait également une autre séparation, vous voyez. En tout cas, là aussi. Peut-être y avait-il un autre petit bloc là, où se trouvait notre personnage qui existe aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, cette ligne médiane n'a du fait que ce sont deux blocs qu'on a mis côte à côte. Alors là, tout ça est très abîmé, vous voyez. Ce qui fait que ce que vous voyez là ne se poursuit plus là, parce que là, c'est cassé. Hein. Mais les deux blocs étaient simplement côte à côte.
C'est une frise ? C'est un élément de frise ?
Oui, de frise.
Ce que vous voyez là, comme le relief précédent, c'est complet, si vous voulez. C'est-à-dire que ça ne se poursuivait pas. Hein. C'est d'ailleurs, là aussi, vous le devinez, fermé, entre guillemets, par des colonnes ou des pilastres latéraux. Hein, comme dans le relief précédent. Ok, donc on a vu ce que ça représentait. Une interprétation sur la scène qui est figurée là, ça représente quoi ? Bon, il y a un personnage, une scène d'offrande. Et quand vous voyez ça, vous êtes toujours d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire plutôt romain que grec ?
Non, ça fait plus grec.
Ah, plus grec. Ah, on va vers la Grèce. Tout le monde est OK avec ça ? On bascule vers la Grèce, là ? On ne sait pas trop. Et la date ? Alors, la date, on allait du 2e siècle avant au 2e siècle après, tout à l'heure. Est-ce qu'on resserre un peu le focus ou bien est-ce qu'on continue à flotter un peu ?
Ça paraît plus ancien.
Plus ancien ? Mais tout à l'heure, on était du 2e avant au 2e après, mais vous verriez ça plus ancien que le précédent, en tout cas.
Oui, avant. Moi, ça me rappelle quand même Marc Aurèle.
Moi je verrais.
Est-ce que les enfants ont une couronne ?
Oui, une couronne de laurier.
Oui, les deux personnages ici ont une couronne. Oui.
Ça ferait plus romain ça.
Mais c'est pareil, mais c'est surtout la chevelure qui va. La barbe.
Absence de bon, l'homme
normal.
Là, ce sont des adolescents.
Oui, des hommes assez jeunes, en tout cas. Hein. Bien. Alors, pour l'instant, c'est peut-être difficile d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. En tout cas, ce relief-là et le précédent appartiennent à un même ensemble, dans lequel il y a d'ailleurs encore d'autres reliefs qui vont peut-être nous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Par exemple, dans les reliefs qui participent de la même décoration, il y a ce relief-là. Alors là, je vous le dis tout de suite, c'est extrêmement abîmé. Il ne reste, à vrai dire, plus que ceci, l'original. Hein ? Ça, c'est original.
Hein ? Là, c'est grec.
Voilà. Tout le reste est donc une restitution. Et qu'est-ce que... encore une fois, les éléments originaux sont là, pas très nombreux. Qu'est-ce qui est donc représenté là ? Là aussi, je vous propose de regarder d'abord la figuration et après de voir ce que ça peut représenter.
Un guerrier.
Pardon ?
Athéna.
Donc, ce serait plutôt une guerrière, alors ?
Ah oui.
Ah oui, elle a une poitrine.
Oui, elle a une poitrine.
Il y a effectivement une poitrine assez féminine. Hein. Donc ce serait plutôt une guerrière assise, Athéna, ou bien qui, si on est à Rome ?
Minerve.
Hein. Si on est, parce que pour l'instant, on disait quand même que c'était plutôt romain que grec. Hein. Athéna, c'est grec. Si on est à Rome, dans les territoires romains, c'est Minerve. Bien. Donc on aurait une Minerve assise. Hein. Ok. Une chose à préciser, dans l'ensemble auquel ces trois reliefs appartiennent, les deux éléments, c'est-à-dire ça et ça, sont placés assez proches l'un de l'autre. Est-ce que ça vous dit un peu quelque chose ? Est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que le fait que ces deux reliefs-là soient proches l'un de l'autre, est-ce que ça vous... Oui, est-ce que ça vous dit des choses ?
La guerre et la paix ?
La guerre et la paix ?
Il n'y a que des femmes.
Que des femmes.
Dans l'autre, il n'y avait que des hommes.
Ouais. Que des femmes. Donc on aurait la paix à gauche, la guerre à droite.
La vie et la mort.
Une Minerve casquée, la guerre, hein, à droite. Et à gauche, la paix. Ouais, ça vous va, ça ?
La rapacie.
Oui, ça ressemble. La vie aussi.
Vous irez, ça ? Et puis alors, il y a... un autre élément encore, appartenant toujours à se mettre ensemble, c'est ça. Alors là, c'est pareil. Il y a plus grand-chose. Hein. Ça existe encore, ça aussi, mais tout le reste est une reconstitution. Alors qu'est-ce que ça représente ? Là, on est plus confortable. Hein. Qu'est-ce que vous voyez là ?
La louve.
Deux anus sérémus.
Grand anus sérémus, très bien.
Mais.
C'est des hommes.
Et les deux autres, deux messieurs, effectivement. C'est qui ça ? Et là-bas ? Alors celui de droite, oui, comme on sont pas à droite, alors il est bien abîmé, mais il a été reconstitué en dessin. Ça a l'air d'être quel genre de personnage ?
Il n'est pas armé.
Et il a un bâton quand même.
Sa tête est là. La partie originale de la tête est très abîmée. Vous voyez plus que le crâne dessiné. Encore une fois, il n'y a que ça d'original. Là, hein.
C'est le berger.
Un berger, qu'est-ce qui vous montre que c'est un berger ?
Le bâton.
Il a un bâton.
Il a un bâton et puis le chapeau.
Le berger qui a recueilli les jumeaux ?
C'est possible.
Oui, peut-être.
Ok. Et puis, alors, vous m'avez parlé du personnage de droite, mais celui de gauche.
La louve est cernée par les deux personnages.
Oui.
L'autre, il a une lance, quand même, non ?
Pardon ?
Il a une lance, non ? Qu'est-ce qu'il
a ? Il a une lance, lui.
Ah oui, c'est un guerrier, donc à nouveau.
Donc là, c'est plutôt un guerrier, effectivement.
On est plus toujours dans l'histoire.
C'est aîné, c'était
avant. Donc ce serait aîné ? Bon, donc là, on a au centre une louve avec deux enfants. Ça, c'est complètement reconstitué, hein, puisque sur le relief original, ça a disparu. Mais on a à droite ce personnage, un berger sans doute, hein, avec son bâton. Et puis là, vous avez un personnage casqué. Hein, je ne l'ai pas dit, mais il a un casque. Et puis il a une lance. Donc un guerrier, peut-être aîné. C'est la seule solution ?
Non.
Il y a pas mal de guerriers. Hein.
Bon. Une allégorie aussi ? Rome, la foi, la guerre.
Alors, pour vous mettre peut-être, pour vous donner un peu d'éléments supplémentaires, dans le monument en question, les deux éléments, ces deux éléments-là sont aussi rapprochés, si vous voulez. C'est-à-dire ça et ça, ces deux éléments font partie d'un même ensemble.
Là, il n'y a encore que des hommes.
Hein, vous vous rappelez du relief de droite. Hein.
Oui, ce serait Romulus et Rémus qui procéderaient à un sacrifice avant.
Donc là, il y aurait Romulus et Rémus qui seraient ces deux jeunes garçons. Ils ont grandi.
Ils ont grandi.
Hein.
Oui, ça c'est vraiment.
Vous avez quand même dit beaucoup de choses déjà.
Oui.
Est-ce qu'on revoit ça dès le départ, peut-être, pour se les remettre en tête avant d'aller un peu plus loin ?
C'est la fondation de Rome, c'est l'exaltation de Rome.
L'exaltation de Rome ?
Oui, c'est bien l'histoire de Rome, la fondation de Rome.
De sa création, de.
Donc on aurait un ensemble d'éléments qui évoquent, qui sont une sorte d'évocation de Rome, une évocation exaltée de cette cité. Alors là, par exemple, ça évoquerait quoi, ça ?
Ça peut être Rhea Silvia, la mère des jumeaux.
Ah, Rhea Silvia, la mère des jumeaux, parce que pouvez-nous peut-être nous dire en deux mots cette affaire de Romulus et Rémus, ce qui se passe ?
C'est la nourrice, elle est nourricière, elle. Hein,
elle est nourricière. Voilà. Donc on aurait, vous savez que Rhea Silvia, c'est qui par rapport à Romulus et Rémus ? Pardon ? C'est leur mère, hein, Rhea Silvia. Et la mère, et c'est qui ? Oui ?
Le père.
Mars, c'est le père. Hein. Donc Rhea Silvia et Mars ont eu comme enfant Romulus et Rémus. Donc on aurait peut-être là Rhea Silvia avec les jumeaux, ceux-là même qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Ok ?
Mais ça n'explique pas ces deux figures.
Ah, les deux figures ici et là. Je vous repasse le reste rapidement pour que vous ayez bien tout en tête. Après, on va aller un peu plus loin. Mais je vous dirai la solution, bien sûr. Et on n'attendra même pas la semaine prochaine pour ça. Bon, ça, ça vous inspire un peu plus. Enfin, ça vous a inspiré tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Non. Non. On en reste à ce qu'on a dit. Hein. Là, notre Minerve. Hein, notre Minerve assise, ouais. Bon, qui est le pendant en quelque sorte de ça. On voit bien comment les deux choses se répondent. Hein. Il y avait peut-être d'ailleurs à droite et à gauche des figures, mais puisqu'il ne reste plus que ça du relief, ben, difficile de savoir. Hein. Hein, ça se répond bien. Hein. Notre Minerve répond bien à notre figure, là, cette Rhea Silvia éventuelle. Hein.
Qui c'est le père de Minerve? C'est Mars?
Le père de Minerve, c'est Jupiter.
C'est Jupiter.
Elle est née de la cuisse de Jupiter. Enfin, elle parle de la cuisse du crâne. Hein. Mais il y a un autre dieu qui est né de la cuisse de Jupiter, mais elle, c'est le crâne. On lui a fendu le crâne de la Jupiter, enfin Zeus, et elle est sortie, toute armée.
Absolument. Ça pourrait être Mars, mais bon.
Ça pourrait être Mars?
Non, non.
Il n'est pas très agressif.
Du Mars, c'est de la guerre. C'est un guerrier, hein. Bon. Et donc, je vous rappelle hein, que ça et ça font donc partie, sont deux pendants, en fait, dans le monument en question. OK ? Alors, ces quatre reliefs sur lesquels on va revenir tout à l'heure hein, ne sont pas tout seuls. C'est-à-dire que dans ce monument, il y a encore d'autres reliefs qui apparaissent. Et là, ça va en fait réagir, je pense.
Arapacis.
Oui, mais ça, ça ne nous dit rien du tout.
L'hôtel de la
paix. Avant de dire Arapacis, il faut déjà dire ce qu'on voit. Parce que Arapacis, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est de l'hébreu, enfin du latin. Qu'est-ce qu'on voit là?
De responsable.
Un défilé de responsable, oui.
De dignitaire.
Un défilé de dignitaire, effectivement. Est-ce que vous pouvez décrire certains de ces dignitaires? Est-ce qu'il y a des gens peut-être plus importants que d'autres, ou des gens qui ont une manière de les singulariser un peu, qui fait que on peut peut-être avancer ce qu'ils sont?
Il y a des prêtres et des sénateurs.
Il y a des prêtres? Où est-ce qu'il y a des prêtres et à quoi les reconnaît-on?
Ils ont la tête couverte.
Ils ont la tête
couverte, derrière.
Un bandeau.
Alors là, on a un prêtre à l'arrière.
Il me semble.
Ici. Ok, donc on aurait un prêtre à l'arrière. Très bien.
Il y en a un deuxième.
Un deuxième.
Qui est derrière.
Derrière.
Oui.
Deux prêtres.
Autrement, il y a des personnages laurés. Donc,
toute une série de personnages laurés. Là, 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 là. Est-ce qu'on voit d'autres?
Certains personnages semblent en conversation.
Oui, certains en effet se retournent les uns vers les autres, conversent, oui.
Oui,
oui.
Une sorte de défilé.
Ils donnent l'impression d'aller tous vers la gauche.
Sauf celui qui est le premier à gauche.
Qui est face à eux.
Face à lui.
Oui, voilà. Voilà.
Donc effectivement, ils vont tous plus ou moins vers la gauche, même s'ils se retournent pour discuter un peu avec le copain derrière. Hein. Mais il y en a un qui, lui, alors, va vraiment dans l'autre direction, c'est lui, et qui est face à celui-là. Celui-là, il fait quoi d'ailleurs? Il est un peu cassé, hein, mais c'est ça le problème avec la sculpture antique, c'est pas toujours complet. Hein. Or, on voit un détail quand même.
Un bout de bras, non?
Oui,
un bout de bras. Il y a une offrande.
Voilà, on voit là un bout de bras. Voilà. Il avance le bras. Mm-hmm. On a un peu l'impression, effectivement, ça nous rappelle.
Un bout de jambe.
Pardon?
Tout à l'heure, on avait aussi.
Oui, ça nous rappelle l'offrande de tout à l'heure. Vous vous rappelez, hein, celui. Il y a déjà un personnage qui faisait une offrande, c'est vous qui l'avez dit d'ailleurs. Mm-hmm. Voilà, et donc, avec ce geste du bras en avant, bon. Vous avez remarqué aussi ces personnages qui ont tous un espèce de petit chapeau un peu bizarre. Vous avez vu ça?
Ah non.
Ils ont tous un petit chapeau avec une petite pointe.
Est-ce que je voyais bien ou est-ce que...
Ah oui, vous voyez bien. il y a toute une série de personnages qui ont donc un petit chapeau étrange avec une pointe dessus. Hein. Ça peut être quoi, ça, hein? Alors, c'est pas le petit bonhomme Kodak qui avait inventé, je sais plus qui d'ailleurs. Good, voilà, Jean-Paul Good, il y a des années. Hein. Ça y ressemble, mais c'est pas ça. Ils peuvent appartenir à quel type de corporation, peut-être, entre guillemets. Bon, tout le monde se balade pas avec un chapeau comme ça,
non,
tu penses?
Non, là, je calme. Non, mais c'est d'une certaine religion.
Oui, effectivement, sont des prêtres qui appartiennent à un type de culte. Alors, ils ont un nom qui m'échappe, mais oui. Voilà, sont effectivement des personnages qui appartiennent à un culte spécifique et qui apparaissent là. Ok.
Puis ils ont des bâtons, enfin pas des bâtons, c'est pas ce que c'est. Il y en a qui ont.
Il y en a qui portent quelque chose sur l'épaule.
À droite.
Ça.
Voilà, certains portent des attributs, effectivement. Oui. Ok. Donc une procession de personnages avec peut-être des prêtres ou des gens qui appartiennent au domaine du religieux. Tous vont vers la gauche. Un se tourne au contraire vers la droite, hein, face à un personnage un peu cassé, mais qui amène la main en avant comme s'il faisait une offrande, dans un geste un peu comparable à celui qu'on a vu tout à l'heure sur un relief précédent. Ce relief-là, il se poursuit sur la droite. Vous connaissez là le personnage qu'on a vu tout à l'heure, hein,
oui.
Ce prêtre dont vous nous avez parlé, ah, oui. Qui a un drapé sur la tête.
Oui, mais il y a des femmes et des enfants maintenant.
Beaucoup d'enfants.
Il y a des enfants.
Il y a femmes et enfants là.
Femmes, effectivement, femmes et enfants.
Femmes
et enfants, effectivement.
Il y en a un qui est jambes nues au sol.
Ouais. Oh là là. Cette époque de l'année, merci. Voilà. Ça vous donne quelle impression, ce cortège de gens qui se dirigent tous comme ça vers la gauche? On a vu la partie gauche, voilà la partie droite.
C'est
une cérémonie, manifestement. Ce cortège, il y a dedans des hommes, des femmes, visiblement des prêtres aussi. Des enfants.
Mais les hommes étaient devant, les femmes et les enfants viennent derrière.
Oui, les femmes et les enfants plutôt derrière. Mais enfin, il y a des hommes aussi, là.
Hein.
Procession, c'est comme une sorte de procession.
Une sorte de procession.
Une
cérémonie.
Relative à la vie de Rome, toujours.
Une cérémonie très organisée.
Oui.
Okay. C'est
une
C'est pas fini.
Mais
il y a encore d'autres choses.
Ouais.
Voilà, là je vous montre la frise dans son entier. Vous voyez, c'est long hein, quand même. Hein. Hein, vous reconnaissez là notre personnage, le premier vers qui on se retourne là, et tout le reste de la procession, avec notamment celui qu'on reconnaît bien avec son voile sur la tête. Hein.
Et les personnages sont même en double file.
Oui, en double, oui, vous avez raison, en double, quelquefois même en triple. Ah oui, là vous revoyez encore, mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens. C'est-à-dire que là on a de nouveau une procession, avec dans l'autre sens.
Ils reviennent avec des cadeaux.
Avec des petits canaux.
Ah bon, oui.
C'est sympa.
Ah ben, ils ont des
alors, est-ce qu'ils vont s'affronter ou est-ce qu'ils sont dans la même disposition d'esprit?
À votre avis, est-ce que quel est le lien entre le cortège qu'on a vu précédemment et celui-là? Là, on a vu un cortège qui va vers la gauche, voilà un cortège qui va vers la droite. Y a-t-il un lien, et s'il y en a un local, entre ces deux cortèges?
C'est ce qu'on a vu au milieu. Là,
c'est ce qu'on a vu au milieu, c'est-à-dire les reliefs que je vous ai montrés en premier.
Oui, peut-être bien.
Okay. Donc on aurait ces deux cortèges qui convergent vers les quatre reliefs que je vous ai montrés.
Ça ne paraît pas la même facture, pourtant.
Non. Ah, pas la même facture. Quelle est la différence, finalement, entre cette iconographie-là, ces cortèges, et les quatre reliefs que je vous ai montrés au départ?
Il y aurait ça, déjà.
Oui, l'Oreta, effectivement. Là, c'est quand même très bien conservé.
Oui.
Mais il y a, oui, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme différence fondamentale peut-être entre ces reliefs que vous voyez là, ces processions, bon, il y en a qui va à droite, l'autre qui va à gauche, et les quatre reliefs du départ.
Ça paraît
je sais pas, les autres, les proportions ne sont pas les mêmes, les personnages là paraissent raccourcis, plus épais.
Donc il y a des problèmes de proportion dans les autres. D'ailleurs, vous l'aviez remarqué. Hein. Vous vous rappelez la figure qui serait peut-être à Sylvia, enfin, ou la Terre pour d'autres, était plus grande que les autres. Et puis on avait un tout petit bœuf, alors qu'un bœuf, c'est plus gros normalement qu'une dame. Quoi. Enfin bref. Donc il y avait en effet des problèmes de proportion. Là, ce que vous dites, c'est que c'est pas la même chose. Quoi.
Ce sont des citoyens.
Ce sont des citoyens.
C'est plutôt des personnages réels, alors que les autres, vous avez pensé.
Ils font réel.
Ben voilà, c'est-à-dire que dans les quatre élèves que vous avez vus au départ, c'est vraiment pas du tout des personnages réels. C'est-à-dire que Minerve, enfin, je sais pas vous, mais on la rencontre pas tous les jours quand même. Hein. Quant aux jumeaux Romulus et Rémus que vous avez identifiés, c'est pareil, on les rencontre assez rarement. Hein. Quant à Mars, il se fait rare aussi. Donc si vous voulez, il y a effectivement dans les reliefs du départ des figures mythologiques, grosso modo. Hein, alors que là, on aurait quoi?
Des gens de l'époque,
des contemporains, hein, des personnages du temps qui sont présentés. Donc Savillon, c'est une différence fondamentale. Hein. Les quatre premiers reliefs, c'est des histoires mythologiques qui sont figurées. C'est deux grands reliefs très longs. Celui-là est très long aussi. Hein. Je vous le passe dans son ensemble, vous allez voir. Voilà. Hein. Voilà la photo générale. Hein. Voilà. Moi, ce que je vous ai montré, c'est ça. Hein. Vous voyez, ça continue à pointer à gauche. Ça, ces deux grands reliefs tout en longueur, sont des personnages réels, quoi, des vrais personnages. Donc on n'est pas du tout dans la mythologie comme les quatre reliefs précédents.
Mais ils vont avec les premiers ou pas?
Alors, l'ensemble fait partie d'un seul et même.
Un seul et même.
Ils ont combien de hauteur là?
Parce qu'ils sont plus petits.
Ça, c'est plus petit. Quel est votre... À vrai dire, la hauteur de ces longs reliefs est la même que pour les panneaux que vous avez vus au départ. C'est exactement les mêmes proportions en termes de hauteur. Hein.
Alors,
évidemment, là, c'est beaucoup plus long. Entre parenthèses, vous devinez peut-être... Peut-être repasser ça sur le truc précédent. Vous devinez peut-être parfois... les blocs hein, qui ont été utilisés mis côte à côte. Hein, vous voyez la jonction analogue, on a visiblement un autre là, sans doute un là. Enfin, on sent que c'est ce qu'on appelle des orthostates, hein, des dalles mis côte à côte. Alors, quand c'est bien conservé, ça fait la blague. Hein. Quand c'est abîmé, comme sur le relief qu'on a dit tout à l'heure, on voit plus.
Ils ont été sculptés pour être vus placés haut parce qu'on voit le dessous des manteaux.
Oui, c'est vrai.
Qui sont donc, au perché.
A priori, d'ailleurs, la photo a été prise un peu du bas, hein, comme vous le ressentez. Effectivement, c'est des sculptures qui sont faites pour être un peu en hauteur. Ouais. Très bien. Eh bien, on va continuer pour voir encore d'autres éléments sculptés qui proviennent du même monument. Il y a ça, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ça?
Des rinceaux.
Des rinceaux. Bien, donc des rinceaux, c'est quoi en fait?
Des motifs
florants. Oui, des motifs végétaux, effectivement. Ouais.
La base est une acanthe, apparemment.
La base est une acanthe, effectivement. En bas, il y a une acanthe. Et puis après, les rinceaux, ils s'organisent de manière très harmonieuse et très organisée sur le panneau. Il n'y a que des éléments floraux?
Non, parce qu'il y a...
Oui, il y a des arabesques, mais...
Non, il y a des oiseaux. Oui, il y a des oiseaux.
Il y a
des signes au-dessus.
Je vous montre un détail, peut-être.
Oui, au-dessus.
C'est pas mal. Voilà. Un détail.
Voilà à nouveau les dents. Enfin, le signe.
À nouveau un signe.
Le signe. Bon, le signe, ça vous fait penser à l'Eda. Hein. Cette l'Eda, décidément, elle est bien présente. Hein. Le signe, à part l'Eda, non.
Donc l'Eda, c'est Apollon.
L'Eda, c'est Apollon?
Non, c'est son fils. L'Eda a donné naissance. L'Eda, elle a donné naissance à Castor et Pollux.
Voilà, c'est ça. C'est deux jumeaux.
Castor et Pollux, voilà, c'est ça.
Donc, on aura à nouveau une référence à l'Eda, ici.
Ah oui, alors les jumeaux, finalement.
C'est-à-dire que si...
Par parenthèse, dans ces reliefs figurant des rinceaux, on trouve plein de petits détails que je vous montre. Est-ce que vous voyez là?
Un animal, un escargot.
Un escargot. Vous le voyez là?
Ah oui.
Et là,
un lézard.
est là. Un scorpion, il y a autre chose encore. Le scorpion, il est là.
Un verre.
C'est comme vous.
Et là.
Un serpent.
Vous voyez là, un serpent. Et qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs ?
Il va manger une grenouille.
Il va aller chercher de la nourriture dans quoi ?
Un nid d'oiseau.
Les oiseaux, ils paniquent un peu, il y en a même un qui s'en va. On comprend. Donc vous voyez qu'à l'intérieur de ces acanthes qui ont l'air très sages, de ces rinceaux qui ont l'air très géométriques, en fait il se passe des tas de choses. Pourquoi ? Et est-ce que pourquoi toute cette petite vie, vous voyez encore un lézard là d'ailleurs, pourquoi toute cette, et vous voyez d'ailleurs bien les orthostates, les blocs côte à côte, pourquoi toute cette vie au milieu de ces rinceaux qui ont l'air si géométriques, si...
Ça raconte
la nature. La nature. Et par rapport à d'autres éléments qu'on a vus, ça vous dit quelque chose ? Par rapport à d'autres éléments iconographiques que nous venons de voir, qui appartiennent au même monument.
C'est très réel.
Très réel.
C'est la création, en fait.
La création.
La création de la terre, de la vie.
La vie.
La confrontation.
Donc en fait, ça s'associerait assez bien avec quoi ?
Le premier.
Le premier que l'on a vu avec ce que vous interprétez comme Romulus et Rémus et peut-être Rhea Silvia. Ok ? Bien. Il y a encore ça qui fait partie de cet ensemble sculpté.
Guirlande d'abondance.
Oui, mais il y a
d'abondance.
La tête de bœuf.
Les têtes de bœuf. Ça s'appelle comment ces têtes de bœuf comme ça ?
Je ne sais plus. Et c'est dans les monuments grecs, souvent.
Dans les monuments grecs, on en voit. Et romains aussi.
Oui, romains aussi.
Comment ça s'appelle ?
Ouais. On en a un à gauche, on en a un à droite.
Ouais.
Comment ça s'appelle ces têtes de bœuf ? Ces crânes de bœuf. Ça s'appelle des bucranes. Des bucranes. Il y a donc des bucranes. Et entre les bucranes, il y a donc quoi ?
Des guirlandes.
Des guirlandes. Et ces guirlandes, qu'est-ce que vous en diriez ?
Elles sont
lourdes, c'est abondant,
il y a de la matière. Il y a des rubans qui allègent.
Il y a des petits rubans qui tiennent tout ça, une guirlande comme ça, il faut que ça tienne. Voilà. Il y a quoi encore ?
Un chapiteau, sur un pilastre.
Alors à droite, voilà, comme si en effet la guirlande était pendue au chapiteau. Et puis il y a encore autre chose.
Une rosace.
C'est quoi ça ? Petite fleur pour faire joli ? C'est charmant, une petite fleur.
C'est
une patène. C'est quoi une patène ?
C'est pour un sacrifice. C'est parce que on va remettre dans le. Voilà, c'est sacrificiel.
Donc c'est un objet qui sert pour la cérémonie du sacrifice.
C'est ça.
D'accord. Donc on a là une patène qui pend et qui sert à la cérémonie du sacrifice. Bien. Ces patènes qui serviraient à la cérémonie du sacrifice, là aussi, ça résonne comment par rapport à d'autres choses qu'on a pu voir sur les différents reliefs de ce monument ?
Il y a les enfants qui amènent l'animal.
Tout à l'heure, les enfants qui amenaient le mouton, le cochon.
C'est
sacrifice.
Ouais.
Ok. Et puis là, sur le relief, qu'est-ce que vous verriez entre cette patène et le reste, peut-être ?
Il y a le crâne et la patène.
Ah oui, les crânes, c'est le résultat de quoi ?
Quand même,
lui
est mort, quoi.
C'est du sacrifice. Ouais. S'il y a des crânes, c'est pas parce que ça fait joli, c'est aussi parce que les crânes, ils sont le résultat du sacrifice auquel participe la patène. Ok ? Alors, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer concernant... Ouais. Ces reliefs-là. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce que ça vous inspire ? À quel type de monument doit pouvoir appartenir l'ensemble de ces éléments sculptés, de ces reliefs ?
Un temple.
Un hôtel ou un temple. Vous êtes plutôt pour l'un, pour l'autre ou pour les deux ? Il y a des hôtels dans les temples.
Oui, mais si c'est grand,
c'est un hôtel.
C'est grand.
Un hôtel. Et donc, ça se dit comment en latin ?
Ara.
Ara, c'est l'autel. Donc, effectivement, tout ça appartient à un autel. un autel. Donc, on va quand même trancher grec, romain.
Romain.
Hein. Là, on a vu en Musée Rébus, donc c'est romain, c'est clair. Et au niveau de la date, vous seriez un peu plus fixé, peut-être.
Premier siècle.
Premier siècle avant ou après?
Après.
Après. Premier siècle après Jésus-Christ.
Premier siècle.
Qu'est-ce qui permet de dater?
Ah. That is the question. À votre avis, qu'est-ce qui peut nous permettre? Pardon.
Les tenues, des papes.
Les tenues, pas permis de dater parfois, c'est vrai.
Ouais. Ah oui.
La mode. La mode, oui, la chevelure. La chevelure. Ça fait partie de la mode d'ailleurs. Tout ça peut permettre de dater. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore pour dater?
Parce qu'il est représenté.
Ouais. Alors, par exemple, les quatre reliefs du départ, ils peuvent permettre de dater à votre avis ou pas? C'est-à-dire Minerve, la scène d'offrande, Rhea Silvia et les enfants, et la scène de Romulus et Rémus.
Puis, par comparaison avec d'autres scènes,
c'est plutôt les autres. C'est ça. C'est plutôt les autres scènes, scènes avec les personnages. Parce que qu'est-ce qui peut permettre de. Pardon ? Oui, allez-y.
Je dis si les autres sont symboliques. Allégorique et autres, bon, ça n'est pas la réalité.
Voilà. Alors que les personnages des deux processions, là, puisque c'est la réalité, ils peuvent nous permettre, et notamment dans quel cas de figure, ils peuvent nous permettre de trouver une date et un moment très précis.
Les coiffures, les arts,
les coiffures,
les vêtements,
et puis
les vêtements.
Et puis il y a peut-être autre chose encore, de plus évident.
Les vêtements,
oui, mais.
Les événements.
Alors voilà, peut-être qu'on peut dire, tiens, c'est tel événement.
Alors, est-ce qu'on peut comparer avec d'autres monuments qui sont réellement bien datés?
Il y a aussi cette comparaison. Possibilité-là. Donc il y a effectivement ça qui peut nous permettre, par comparaison, de dire ce qu'il en est.
Il doit y avoir la facture aussi.
La facture, oui, effectivement, ce qu'on appelle le style, voilà, la manière dont c'est fait, qui nous permet effectivement de savoir davantage.
Les instruments dont ils sont servis pour faire la sculpture.
Oui, oui. Alors, est-ce que je vous donne un peu la...
Oui.
Bon, on a, je crois, pas mal labouré tout ça. Je crois que maintenant, on peut en venir à la solution, entre guillemets, hein, que certains d'entre vous avaient trouvée. Hein. Il s'agit bel et bien d'un monument qui s'appelle...
L'Arapacis.
Voilà. C'est l'hôtel... L'Arapacis, mais un troisième mot.
14 après Jésus-Christ.
Il y a un troisième mot, Arapacis, qui veut dire
l'hôtel de la paix.
Mais il y a un troisième mot dans la désignation de ce monument. Arapacis Augustae. L'hôtel de la paix Auguste. L'hôtel de la paix Auguste. Bien. Alors, on va voir pourquoi tout ça. En fait, le monument auquel appartiennent ces reliefs, le voilà. Ça n'est pas un temple, c'est un autel, comme vous l'avez largement suggéré d'ailleurs, hein, dont voilà la face. Ça, c'est la face ouest. Vous voyez, il y a une façade, une porte qui permet d'aller à l'intérieur, un petit escalier qui permet de monter, et vous reconnaissez nos deux reliefs. Vous les reconnaissez?
Oui.
Je crois que ça vous dit quelque chose. Et donc, à l'intérieur, se trouve un autel. C'est-à-dire qu'on a une sorte de mur périphérique et un autel au milieu. D'accord ? Voilà le plan de l'autel en question. Vous reconnaissez l'escalier, et puis voilà l'autel qui est à l'intérieur, et... l'espèce de mur extérieur, on appelle ça souvent, par un terme grec d'ailleurs, qui est témenos. Hein. Le témenos dans un sanctuaire, c'est le mur qui circonscrit le sanctuaire, hein, ce qu'il y a autour du sanctuaire. Hein. Donc voilà ici, si vous voulez, l'autel lui-même, hein, auquel on accède par ces marches, et tout autour, le mur, le témenos. Comment est-ce que vous placeriez, sur le plan qui est là, les différents éléments sculptés que nous avons vus? Par exemple, les quatre reliefs de départ. Hein, dont je vous ai dit qu'ils allaient deux à deux en pendant. Voilà, sur les petits côtés. D'ailleurs, on vient de le voir. Hein, il y en a deux là et deux là. On est d'accord. Hein.
Et
les deux processions sur les longs côtés. Ça, c'est clair. Hein. Où est-ce qu'on mettrait les décors végétaux que je vous ai montrés.
Dessous,
vous l'avez vu précédemment. C'est donc dessous. Hein. Vous l'aviez d'ailleurs bien dit tout à l'heure. Les reliefs, ils sont faits pour être assez en hauteur. Hein. C'est assez grand. Hein. Vous voyez les marches, c'est assez haut. Hein. Ça fait 4 mètres de haut à peu près. Hein. Donc vous voyez que les éléments de rinceau sont en effet dans la partie inférieure, alors que les éléments, les reliefs, sont dans la partie supérieure. Donc effectivement, les rinceaux sont, font l'extérieur, mais dans la partie basse, du monument en question. Très bien. Et puis alors, on a quand même nos histoires de guirlandes, de... Tiens, comment est-ce qu'on appelle les têtes de taureau?
Les
bucranes et les patènes. Ça se met où, ça? Ces reliefs représentant ça? Vous mettriez ça à quel endroit? On ne les voit pas, là.
À l'intérieur.
Effectivement, à l'intérieur, et là où a lieu le sacrifice lui-même, hein, c'est-à-dire près de l'autel, l'autel il est là, hein, il y a effectivement les décors, à l'intérieur des murs, hein, les décors avec les bucranes, les guirlandes et les patins. Parfait. Ça vous paraît clair, ça? Bien. Je vous montre, oui, j'ai passé volontairement rapidement. Voilà, ça c'est un écorché que vous voyez de l'hôtel, hein, mais je pense que vous repérez. Hein. Voilà la façade avec l'escalier, voilà un autre relief, il y en a un autre là. On a écorché l'hôtel et voilà comment ça passe à l'intérieur, c'est une reconstitution. Et vous reconnaissez là l'une des processions, hein, qui va vers l'avant de l'hôtel, c'est-à-dire cette série de marches. D'accord? Ouais, voilà, exactement. Vous voyez à l'intérieur les bucranes et les patènes. C'est clair pour vous? Je pense que les choses se reconstituent dans votre esprit. Hein. Alors, en fait, ce monument qu'on appelle A Passis Augustae ou A Auguste, comme vous préférez, a été construit, à votre avis, à quel moment?
C'est la belle
Voilà. Ça a été, il a bel et bien été construit à l'époque d'Auguste. Hein. Vous rappelez peut-être qui est Auguste?
Oui, le neveu de César.
C'est l'ancien Octave. Hein. En effet, au début, il s'appelle Octave, puis il s'appelle Auguste. Et vous le situez un peu quand? Et en gros, Auguste, sans faire une longue leçon d'histoire, c'est qui, c'est quoi? C'est le successeur de Jules César.
Le fondateur d'Autun.
Le fondateur d'Autun. Ah, oui. Autun s'appelle Autun parce que c'est Augusto Tunum. Hein. Donc Auguste a fondé Autun, absolument. Donc c'est complètement en lien avec notre histoire locale.
Il a précédé Tibère.
Il a précédé Tibère et son fils adoptif.
C'est pile-poil la charnière. Premier siècle avant, premier siècle
après. Et puis, voilà, il est fin premier avant, début premier après. Et son règne correspond à quoi? Le règne d'Auguste, si on a à le caractériser, c'est quoi?
La paix civile.
La période la plus...
C'est une artiste.
Oui.
C'est la période dorée.
Une période dorée, une période faste. D'ailleurs, on va parler de quoi? Cette période est tellement faste, tellement calme. On l'appelle comment?
L'âge d'or.
L'âge d'or, mais il y a un autre mot, le latin, qui dit bien ce que ça veut dire. Enfin, un mot, deux mots. C'est la Pax Augusta, la paix d'Auguste. Auguste, finalement, c'est celui qui va instaurer la paix. On sort de périodes troublées, hein, les guerres civiles de la République romaine. César, ça a été une période aussi quand même un peu compliquée. Et après, César arrive Octave qui devient Auguste, qui porte bien son nom. Hein. Auguste, après tout, voilà un élément qui évoque l'idée, une sorte de pérennité favorable. Hein. Et donc Auguste, c'est le premier empereur. Et donc c'est un personnage qui imprime la paix dans ce monde romain qu'il n'avait guère connu. Et l'hôtel en question, Lara Passis Augustae, est donc un hôtel qui a été créé, qui a été fondé par Auguste, hein, précisément pour célébrer
la paix.
Je vous montre ici un plan de Rome. Rome à l'époque d'Auguste, c'est essentiellement à l'intérieur des murailles que je vous montre là. Hein. Plus tard, Rome va s'élargir. Hein. vous voyez là. Mais à l'époque d'Auguste, c'est plutôt ça. Et Auguste avait décidé de placer l'Arapacis à l'extérieur de ce qu'on appelle le Pomerium. Le Pomerium, c'est donc cette première enceinte romaine. Il l'avait placé ici, pas très loin de deux monuments que vous voyez ici et là, que je vais vous montrer sur cette sorte de maquette qui reconstitue le secteur. Hein, on est donc là à l'extérieur des remparts de Rome. À gauche, vous voyez le Tibre. Vous repérez par rapport au plan précédent ?
Oui, oui.
Hein, c'est clair, je crois. Ben là, vous avez notre Arapacis, okay, avec le fameux escalier hein, qu'on a monté, si on veut dire, tout à l'heure. Hein. Les proportions ne sont pas bonnes. Hein. Bon, c'est pas très grave. Là, vous voyez un grand monument qui était carrément le mausolée d'Auguste. Il a fait plus grand pour son mausolée. Hein. Il s'est fait construire son mausolée de son vivant. Donc ça, c'est le mausolée d'Auguste, le tombeau d'Auguste. Ça, c'est la voie Flaminia qui va vers le nord. Et surtout, Auguste avait également fait créer dans ce secteur, qui n'est pas très loin du champ de Mars, hein, ce grand cadran solaire monumental dont le gnomon, c'est-à-dire la lépine qui permet de donner l'heure, est en fait un obélisque égyptien. Je vous donne le tuyau, ça va être marrant à faire chez soi. Là, si vous voulez, Auguste avait mis un obélisque égyptien comme gnomon de cette espèce de cadran solaire gigantesque. Hein. Donc vous voyez qu'il y a, finalement, Auguste va, dans tout ce secteur, créer un certain nombre d'éléments qui sont là, évidemment, de manière très symbolique. Hein. Un hôtel lié à la paix, il est quelque part le maître du temps et assure, par ce mausolée qui n'est pas tout à fait minuscule, une sorte de pérennité à sa mémoire. Hein. Le message est relativement clair. Hein. Alors, ce fameux Arapacis, on va simplement, pour terminer avec lui, en faire le tour. Vous reconnaissez ici la façade qui est la façade ouest, celle qui donne sur le gnomon, qui donne sur le cadran solaire. Hein. Voilà donc l'escalier. Vous reconnaissez à gauche et à droite deux des reliefs que l'on a vus. Alors en fait, à droite, ce que vous avez vu et vous aviez grosso modo trouvé, c'est en fait le sacrifice d'Énée. Ça, c'était né. Vous vous rappelez de ce personnage avec la tête voilée que vous avez pris pour un prêtre? En fait, quand on n'est pas un prêtre, et ben on fait comme les prêtres, quand on fait une offrande, on se met un voile sur la tête. Et donc ici, Aîné s'est mis un voile sur la tête pour sacrifier ce qui n'est pas un gros mouton, mais une truie. Les oracles avaient en effet dit qu'en arrivant en Italie, Aîné, vous savez qu'Aîné, c'était un rescapé de Troie. Hein. Et vous savez qu'avant d'arriver en Italie, il y a pas mal divagué en Méditerranée. Vous connaissez l'épisode de Didon et Aîné, je ne vais pas vous chanter Purcell, vaut mieux pas d'ailleurs, mais vous connaissez cet épisode. Et quand il arrive en Italie, il rencontre, enfin, les oracles lui ont dit que s'il rencontre une truie sous un chêne, il faut qu'il la sacrifie en l'honneur de Junon. Il va rencontrer une truie, il va la sacrifier en l'honneur de Junon. Junon était l'ennemi de Troie. Donc Aîné qui arrive de Troie, si vous voulez, il n'emmène pas large. Quoi. Donc en arrivant en Italie, il va sacrifier la truie en l'honneur de Junon pour se conforter les bonnes grâces de la dite divinité. Et donc la truie, on l'amène, ces deux petits camilles, les camillius, c'est-à-dire une sorte de servant du culte qui amène la truie en question. Et au-dessus, dans le petit temple, les deux petites statuettes que vous avez vues, c'est ce qu'on appelle les pénates. Vous savez ce que c'est que les pénates? Les pénates, c'est les deux divinités tutélaires de la ville de Troie. Quand Aîné a fui Troie en flammes, avec son fils, avec son père, etc., il a emmené avec lui les pénates de Troie, qui sont les divinités de Troie. Tout ça, c'est très très important, parce que ça veut dire que Rome, bientôt, n'est-ce pas, on va avoir fondé en Italie, c'est la descendante de Troie, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette légende d'Aîné n'est pas une petite légende un peu mignonne et drôle, c'est tout simplement une manière de faire une filiation entre Troie, la cité mythique s'il en est, et Rome. Rome, c'est la nouvelle Troie. Donc ça, c'est évidemment très, très important. Et donc, il est en train de sacrifier face aux Ménates, aux Pénates, pardon. Les Ménates, c'est autre chose. Hein. Face aux Pénates, il est en train de sacrifier, mais en l'honneur de Junon. Et puis de l'autre côté, mais ça vous aviez bien vu, c'est ce qu'on appelle le Lupercal. Lupercal, ça veut dire la grotte de la Louve. Et vous avez bien reconnu la scène. Hein. Vous savez que, effectivement, Rhea Silvia va, on est une dizaine de générations plus tard, hein, parce que Aîné a un fils qui s'appelle Ascagne, qu'on surnomme Iule. C'est important parce que la première dynastie, vous savez, des empereurs romains s'appelle les Iulii, c'est-à-dire les descendants de Jules, de Iule, le fils d'Aîné. Toujours cette volonté de se référer à Troie, la cité par excellence. Hein. Je ne sais plus pourquoi je vous parlais d'Iule, mais enfin, c'est donc le fils d'Aîné. 10 générations après Yule, d'ailleurs des tas de choses très compliquées sur lesquelles je passe, mais effectivement, une prêtresse qui est mariée avec un descendant d'aîné, et qui s'appelle Rhea Silvia, va avoir de Mars deux jumeaux, Romulus et Rémus, et vous avez bien identifié la scène, où on voyait la louve en train d'allaiter Romulus et Rémus, berger Faustulus qui est en train de les découvrir, sous l'œil de Mars, qui est leur père en fait, hein. Et vous savez que Romulus et Rémus vont fonder Rome, enfin, vous savez, l'affaire évidemment, le moment où les dieux vont désigner Romulus comme celui qui est le roi de Rome, Rémus, qui lui est évidemment un peu agacé par ça, va faire le malin, si j'ose dire, en passant par-dessus le pomerium, c'est-à-dire l'enceinte de Rome que Romulus est en train de tracer, et puisqu'on n'a pas le droit de franchir l'enceinte de Rome comme ça, Romulus va tuer Rémus, Romulus est donc le fondateur de Rome. On a effectivement ici, sur le devant de l'autel, deux éléments des mythes fondateurs de l'Italie romaine et de la ville même de Rome. Hein. Parce que Romulus et Rémus sont les fondateurs de Rome, mais le fondateur de cette dynastie qui va pouvoir créer Rome, c'est Aîné. Hein. Donc on a là deux éléments phares de ce que c'est que l'Italie romaine. Alors si on tourne sur le côté droit, n'est-ce pas, on voit ce côté sud du monument, avec en bas effectivement des rinceaux et en haut une procession qui va vers la gauche. On l'a déjà, n'est-ce pas, aperçu tout à l'heure. Là voilà la procession en question, hein, dans son ensemble. Hein. Vous rappelez, n'est-ce pas, du personnage avec son vêtement sur la tête. Hein. Ça, en fait, c'est Agrippa. Agrippa est le grand conseiller fidèle à Auguste. Auguste qui est en fait là. Ça, c'est Auguste, ce personnage qui est coupé, n'est-ce pas, vers qui on se tourne et qui est en train de faire manifestement une offrande, un peu qu'il est en train de faire une offrande, il est en train carrément de faire l'offrande pour la création de l'Arapacis, n'est-ce pas. Car ce qui est représenté là, c'est la fondation du monument en question. Et donc, Auguste est représenté là avec, en fait, toute une série de membres de sa famille, Agrippa, mais également sa femme, Livie, son fils adoptif, Tibère. Bref, vous avez la famille d'Auguste qui est ici représentée. Comme vous lisez tout à l'heure, c'est une représentation tout à fait réelle qui est là figurée. Alors, quand on arrive derrière l'autel, c'est-à-dire la face est, on retrouve nos deux reliefs. À droite, ce que vous avez pris pour Minerve, en fait, ce n'est pas Minerve, c'est la déesse Rome. Ce que vous aviez évoqué d'ailleurs au départ pour elle. Hein. Rome, Roma, vous l'avez là. En fait, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais sur le bouclier qui, il est vrai, est un. Voilà, il y a une louve. Hein. Mais ça, la louve Minerve, elle n'en aurait rien à faire. Par contre, Rome, oui. C'est donc la personnification de Rome. Est-ce que vous avez là cette sorte de triade? C'est, mais ça, vous l'avez assez bien vu, je crois, c'est en fait la terre, telle lousse, la terre nourricière. D'ailleurs, elle nourrit. Hein. D'abord, elle est assez gironde, mais pas trop. Elle est en train de nourrir deux enfants qui font penser à Romulus et Rémus, mais qui sont peut-être simplement des allégories des humains, si vous voulez, hein, qui sont nourris par la terre. Effectivement, vous avez les éléments, l'air et l'eau, qui sont figurés de chaque côté. Une terre bien nourricière avec des arbres, des animaux. Enfin, c'est la terre nourricière qui est entourée des éléments. Vraiment, on sent bien que Rome est situé dans un contexte on ne peut plus favorable. Et si on continue à tourner autour de l'autel, eh bien on a l'autre procession que vous voyez là, qui va évidemment dans le sens inverse, puisque les deux convergent dans le même sens, vous avez compris, hein. C'est la même procession, simplement il y a deux parties, et là voilà la procession en question, avec en bas les rinceaux, et en haut la procession qui va cette fois vers la droite, avec d'autres membres d'ailleurs de la famille d'Auguste. Et voilà l'intérieur de l'autel, mais on l'a déjà un peu aperçu tout à l'heure. Hein. Les sacrifices avaient lieu là, vous reconnaissez sur le côté les guirlandes et les patènes. Et en voilà un détail de ces murs intérieurs avec guirlandes et patènes. Je pense que hein, vous avez une bonne idée maintenant de la totalité de ce monument, qui en fait date juste d'une décennie avant Jésus-Christ, hein. 13-9 avant Jésus-Christ. Voilà, on est juste avant. Hein.
Voilà. À l'origine, ce monument était couvert ou pas ?
Il n'était pas couvert et il était peint. Hein. Il était vraiment un ciel ouvert. Aujourd'hui, il est couvert, il est dans un bâtiment qui vient d'être d'ailleurs complètement revu. Aujourd'hui, il est complètement couvert. Bon, il a été retrouvé en terre, hein. Il a fait l'objet de fouilles au XVIe siècle, et puis plus récemment, enfin, je passe sur les détails. Mais aujourd'hui, il est couvert, mais autrefois, il ne l'était pas. Et il était peint, il y a eu tout un travail sur le chromatisme du monument. Ça doit être du marbre, c'était en partie peint, comme vous le voyez ici, dans cette reconstitution. Beaucoup de choses étaient peintes, effectivement. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, mais on ne va pas se quitter comme ça, parce que je voulais pour compléter un peu ce regard sur ce monument romain important, je voulais, en guise d'apéritif, que nous regardions un peu quelques empereurs romains, parce qu'on a vu à quel point on avait dans cette Ara Pacis Augustae un monument qui date de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et finalement, si vous aviez en deux mots à souligner l'originalité, la singularité, ce qui fait que ce monument, l'Ara Pacis, est spécial, bizarre. Qu'est-ce qui en fait l'originalité, la singularité? C'est quoi, finalement?
Son réalisme.
Notamment les portraits qu'on a vus, hein. Les personnages, on ne peut pas tous, mais beaucoup sont identifiables, hein. Donc ce sont des portraits qui sont présentés. Ça, c'est quelque chose qui est largement, sinon tout à fait nouveau, du moins largement nouveau. Les Romains sont des portraitistes. Le portrait romain, on rigole pas avec, hein. C'est une chose très importante. Alors, moins les Grecs, on verra que... Bon, peut-être que... Mais bon, en tout cas, les Romains, le portrait, c'est un peu leur affaire. Et puis, qu'est-ce que... L'autre élément peut-être important dans cet Ara Pacis, il n'y a pas non plus que des portraits. Les portraits, c'est les deux processions, mais le reste, c'est quoi?
Les vêtements.
Alors, tout ça, c'est le réaliste. Il y a les vêtements, les coiffures, les visages, les traits des visages. Vraiment, quand on fait des portraits, à Rome, on rigole pas. Hein. C'est vraiment quelque chose de très précis. Tout est... On reproduit les personnages tels qu'ils sont. Hein. Ça, c'est important. Alors, il y a effectivement la représentation de la nature. Ça, c'est effectivement une chose très importante. Et puis... Il y a les allégories, ce sont des allégories. Oui, mais il y a des allégories qui viennent de quel répertoire?
De la fondation de Rome.
Oui, mais plus largement. La mythologie, c'est tout un répertoire mythologique. Donc effectivement, si vous voulez, l'art romain s'articule, et l'Ara Pacis en ce sens est un monument qui est formidable parce qu'il permet de révéler ça en un seul monument. L'art romain, c'est le portrait c'est capital, et dans l'art romain, l'autre élément capital, c'est ce qu'on appelle le relief historique, c'est-à-dire des éléments qui montrent sous forme de relief des grandes scènes, par exemple de la mythologie, comme on vient de le voir. Vraiment, l'Ara Pacis, il est formidable pour ça. Alors, je vous le disais, hein, un petit apéritif en plusieurs salves. Je vous passe ici quelques têtes d'empereurs, les plus connues. Hein. Et je vous les montre une première fois, que nous disions leur nom, parce que c'est important.
Le premier, c'était Auguste.
Allez,
Auguste,
très bien. On vient de le voir dans Rapacis, Auguste. Allez, c'est facile. Hein. Ça, c'est Auguste, il a toujours cette tête. Dès que vous voyez ce personnage, c'est Auguste. Allez, un deuxième.
Claude,
je vais mettre sur la voie. C'est un personnage, il a un cou un peu bovin. Hein.
Titus.
Non. Parce que les Rénis n'ont pas aimé ça.
On peut aimer les coups un peu larges. L'incendie de Rome, ça vous dit quelque chose?
Néron.
Néron. Brut un peu épaisse. Faire vite.
Aussi,
une brute épaisse.
Pas sûr.
Oh. Il a l'air plus sympa, tout le Dieu.
Titus. La clémence de Titus de Mozart, au contraire, c'est un type très bien.
Parce que vous savez, Titus, il avait une grosse tête.
Là, en l'occurrence, c'est de là. Hein. Je vous montre pas tous les empereurs, mais quelques-uns. Tibère. Alors lui, il est très, très, très représentatif.
Claude.
Pas Claude.
Tibère.
Pas Tibère. Je vous les montre dans l'ordre. Hein.
Ah.
Ouais.
Alors on en était où?
Alors j'en ai enlevé parce qu'autrement on passe la nuit là-dessus. Hein. Mais je vous montre peut-être les plus connus et ceux dont les traits sont les plus typiques.
Antoine, non.
Pardon.
Non, c'est pas Antoine.
Pas Antoine. Ce serait avant.
Ouais, c'est juste avant.
Alors lui, il a une tête mais absolument reconnaissable. Trajan.
Oh. Ah oui, la colonne.
Adrien, ça c'est facile. Hein. Vous avez tous lu Marguerite Yourcenar, c'est Adrien, il y a ça sur la couverture de ses bouquins, c'est Adrien, les mémoires d'Adrien, voilà Adrien. Sa belle barbe, c'est lui. Ça c'est quelqu'un qui réfléchit.
Oui, c'est
Marc Aurèle, le philosophe. Hein. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, c'est lui. Hein.
Le sage.
Alors, le sage. Il dit quelque chose, ça?
Belle barbe.
Tibère. Belle barbe. Ouais. Un regard un peu farouche.
Ouais. Hein? Tibère, non?
Septime Sévère. Et ça, c'est le fiston de Septime Sévère.
Oui, ben celui-là, il n'était pas terrible.
Pas terrible, Eric. Sauf qu'il a construit à Rome des termes considérables.
Caracalla.
Caracalla. Les termes de Caracalla, c'est Caracalla.
Constantin,
vous connaissez sans doute ces statues qui est au musée, dans un des musées du Capitole. Hein. Ça fait plus de 2 mètres de haut, c'est une statue colossale, énorme. Voilà, bien, quelques empreintes. Je voulais également vous montrer, deuxième petite salle d'apéritif, hein, car je regarde l'heure, je voulais vous montrer quelques portraits romains, et que vous me disiez à travers ces quelques portraits que je vous montre, quelles seraient les caractéristiques de l'art du portrait romain.
Le réalisme.
Très expressif.
Le réalisme.
Expressif.
Les yeux sont plus marqués.
Alors, qu'est-ce que vous diriez donc comme élément caractéristique de l'art du portrait à Rome ? Le réalisme. Hein ? Le réalisme parfois. Voilà, brut, hein, outré. Hein. Ouais. Le personnage que je vais montrer juste après, il n'y a pas une ride qui nous est épargnée. Hein. Voilà. Ça, c'est quoi d'ailleurs ?
Il porte ses
deux têtes.
Ancêtres.
Eh oui, ce personnage-là, il porte ses deux ancêtres. Ça vous signifie quoi, ça ? L'important de la famille et de quoi spécifiquement ? La filiation. Et donc incarné par quoi ? Au niveau religieux ?
Le culte des ancêtres.
Le culte des ancêtres, c'est capital. Hein. D'ailleurs, les deux portraits que vous voyez là sont peut-être des portraits en marbre. J'espère que non, d'ailleurs, parce que le pauvre gars, avec ses deux portraits en marbre, il va avoir un peu mal au bras. Hein. Je pense que ce sont plutôt des portraits en cire. Très souvent, on faisait en effet des portraits en cire et on avait dans son salon une petite armoire avec certains portraits en cire des ancêtres. Hein. Évidemment, il n'en reste pas vraiment, vous imaginez, hein. Et notamment pas à Pompéi. Hein. Mais les ancêtres, c'est très important. Donc si l'art du portrait est tellement important à Rome et dans le monde antique romain, c'est à cause de ce culte des ancêtres. C'est-à-dire, un ancêtre, c'est pas un vague ancêtre générique, c'est cet ancêtre-là, celui qui a un bouton là et un gros nez, si vous voulez. Hein, c'est pas un autre. Hein. Donc, la tradition réaliste, elle est capitale pour des raisons religieuses dans la Rome antique. Lui, il est quand même étonnant. Hein. Ça vous dit quoi ? Il y a quand même une différence première avec tous les autres.
Mais c'était un bronze.
Voilà, c'est un bronze. Hein. Voilà, parce que ça, souvent, on l'imagine moins, parce que les bronzes sont souvent moins conservés que les marbres. Mais il y avait beaucoup d'œuvres en bronze. Hein. Vous remarquez là, qu'est-ce que ces trois pièces peuvent vous...
La coiffure.
Voilà. Vous voyez qu'il y a décidément, hein, et on en parlait tout à l'heure, une des manières de dater, quelquefois à 10 ans près, hein, c'est notamment la question des coiffures. Vraiment, on fait très attention, un ancêtre, il est représenté, une personne est représentée telle qu'elle est, avec la coiffure de son temps. Il y a une grande précision, comme vous le voyez. Non.
Là, les cheveux très courts.
Alors là, c'est une coiffure un peu plus contemporaine, peut-être.
Il a des cheveux, quand même.
Il a des cheveux, mais très ras, parce que à cette époque-là, on est chez les Sévères, hein, donc au 3e siècle de notre ère. La mode, elle est au contraire. Alors, c'est curieux, parce qu'avec Septime Sévère, il y avait au contraire plein de cheveux partout, mais après lui, on va au contraire aimer, après Caracalla en particulier, les crânes rasés, comme ça, et vous en avez là, ici, un exemple. Décidément, la mode est suivie, vous voyez, à quelques années près. Et ça vous dit quoi ?
L'influence orientale.
Là, on est très tard.
L'influence orientale.
Alors, une influence orientale, qu'est-ce que vous diriez par rapport à la figure que vous avez sous les yeux ?
C'est plus brut, c'est moins réaliste.
Voilà, c'est beaucoup moins réaliste. C'est-à-dire qu'on est là d'abord dans une tradition orientale, c'est pas la même. Et il y a en effet, mais on est au 5e siècle là. Hein. On se détache en fait avec la fin de l'Antiquité. Et là, on est en Orient, on est à Byzance, à Constantinople si vous préférez. On est là dans un contexte différent où on voit un peu, j'allais dire, perdre pied avec cette réalité qui faisait le portrait romain dans, j'allais dire, l'Antiquité romaine classique. Hein. Là, on est après, on est en Orient au 5e siècle. Cette vision va complètement disparaître de portraits très réalistes. presque terminé, mais je voulais vous montrer quelques autres monuments avec des reliefs. On a vu que le relief historique, mythologique ou non, hein, c'était très important à Rome. Ça, c'est quoi ?
C'est le butin de Jérusalem.
Voilà, effectivement.
Le butin de Jérusalem.
Voilà, vous voyez en effet, vous reconnaissez à gauche, hein, le fameux chandelier à sept branches. Vous savez en effet que l'empereur Titus, celui qu'on a vu tout à l'heure, a vaincu la Judée, il a investi le temple de Jérusalem et a ramené à Rome, pour son triomphe, un certain nombre d'objets précieux du temple de Jérusalem, dont le fameux chandelier à sept branches, vous le voyez ici, mais pas que d'ailleurs. Donc, ce relief, il orne quoi ?
L'arc de triomphe de Titus.
Ça, c'est le relief qu'il y a en face, qui représente justement... Voilà, vous voyez à droite Titus dans son char, et les quatre chevaux, le quadrige, qui tire le char de Titus. D'ailleurs, chose amusante, vous avez devant une femme qui est là, et qui tire le char, ça c'est la déesse Rome. Hein. Donc vous voyez qu'on mélange la réalité et la fiction, la mythologie et la réalité. Voilà, et voilà l'arc du Titus. En fait, les deux reliefs que je viens de vous montrer sont à l'intérieur du passage. Tiens, à propos des arcs romains, puisqu'on est à Rome et qu'on est dans les arcs, ça c'est l'arc, c'est quel arc ça ?
Septime Sévère.
Ouais, c'est l'arc de Septime Sévère. Troisième siècle, hein, Septime Sévère, on l'a vu tout à l'heure, et celui-là ? L'arc de Constantin. C'est celui qui est juste à côté du Colisée. Hein, c'est à côté du Colisée, il y en a un arc, c'est l'arc de Constantin. Il est marrant, l'arc de Constantin, il a été conçu au début du 4e siècle, mais il remploie des quantités d'éléments de monuments antérieurs. Constantin, il a chippé des reliefs ailleurs, si vous voulez, pour les remplir dans son arc.
C'est un vintage.
En quelque sorte. Par exemple, les statues des Daces qui en haut viennent du forum de Trajan, par exemple. Hein. Voilà. Il s'est servi ailleurs. Et tiens ça.
C'est la colonne.
La colonne Trajan. Eh ben non, c'est la colonne aurélienne. Mais ça, j'ai fait exprès pour vous tomber dans le panneau. Vous le connaissez, hein. Parce que Marc Aurèle a fait également construire une colonne. Et alors, celle-là, c'est quoi ? Attends, ça, c'est un détail, la colonne aurélienne. Et ça,
c'est
la Trajan, qui est au centre du forum de Trajan. Donc, il y a deux colonnes à Rome. Hein.
C'est trompeur, parce que la vue de la colonne aurélienne, on dirait... derrière
que... Ah bah bien sûr, mais vous savez je suis un peu mutin, vous me connaissez. Dernière chose, on n'a pas du tout parlé de statuaire religieuse. Voilà par exemple, ça c'est qui ?
Vénus.
Voilà une Vénus. Alors on a parlé de relief avec des divinités, on a vu que le relief romain, le relief historique, avec soit des portraits, des scènes réelles, ou alors des scènes mythologiques, ça c'était très romain. Par contre, je ne vous ai pas du tout passé de statues pour essayer dans cette première séance de résumer l'art romain, je n'ai pas du tout passé de statues figurant par exemple Vénus. Je vous en passe une maintenant, mais en fin de séance, en deux minutes, là, alors qu'on va bientôt partir.
Parce qu'ils copient le grec.
Parce que
ils imitent les grecs.
Voilà. Absolument. C'est-à-dire que, et ça on en reparlera évidemment sans doute dans les séances qui viennent, dans ce domaine de la statuaire religieuse, les Romains ne sont pas des inventeurs. Ils vont copier les Grecs. En gros, ils vont reprendre ce que les Grecs ont inventé. C'est comme ça.
Ils les collectionnaient aussi.
Alors voilà, ils les collectionnaient, et ils en faisaient faire, quelquefois par des sculpteurs grecs d'ailleurs, hein, quantité de copies. Hein. Par exemple, cette Vénus que vous voyez là, qui est en fait plutôt une Aphrodite, parce qu'il s'agit d'une Vénus... grec à l'origine, elle a été réalisée par un sculpteur grec dont on aura peut-être à reparler, qui s'appelle Praxitèle. Et cette œuvre était, Praxitèle était très célèbre dans l'Antiquité, et sa Vénus dite de Cnide, Cnide est une cité d'Asie mineure, de Turquie, si vous voulez, et on a trouvé un exemplaire de cette Vénus à Cnide, d'où le fait qu'on appelle la Vénus l'Aphrodite de Cnide, c'est d'ailleurs pour Cnide que Praxitèle avait réalisé cette Vénus au départ, et donc on l'appelle la Vénus ou l'Aphrodite de Cnide, et vous voyez qu'elle a été recopiée. Alors je vous montre trois exemplaires d'une Vénus de Cnide, mais je pourrais vous en montrer une centaine, hein. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le modèle inventé par Praxitèle était tellement célèbre qu'on l'a recopié en des quantités d'exemplaires. Si vous êtes un Romain un peu cossu, vous avez un jardin, vous voulez avoir une statue de Vénus, il vous faut une Vénus après Praxitèle, autrement ça ne fait pas, si vous voulez. C'est bien clair, hein, il vous faut ça, hein, c'est nécessaire. D'après Praxitèle ou d'après tel autre sculpteur grec. Pourquoi pas Scopas, par exemple, hein. Je vous montre là une autre Vénus, qu'on appelle souvent d'ailleurs la Vénus pudique ou la Vénus du Capitole, ça dépend, parce qu'on a un exemplaire au Capitole. Ben, vous voyez, là, c'est trois statues différentes, et pourtant, c'est toujours le même modèle, qui n'est pas du tout le même que précédemment. Hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Les Grecs ont fait, à travers des sculpteurs, des œuvres, j'allais dire, exemplaires, qui ont été ensuite recopiées à de très nombreux exemplaires à l'époque romaine, quelquefois en Grèce même. Hein, les sculpteurs grecs s'étaient convertis à la copie.
Hein. Quelquefois, on a perdu l'original et on n'a plus quelque.
Et généralement, voilà, bizarrement, on connaît aujourd'hui beaucoup mieux la sculpture grecque par des copies romaines que par des sculptures grecques originales. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, souvent, les sculptures grecques qui servaient de modèle à ces copies en marbre étaient non pas en marbre, mais en bronze. Sauf que le bronze, ça se fond. Et que beaucoup de ces originaux ont disparu. Alors, toutes n'étaient pas en bronze, hein, mais un certain nombre étaient en bronze. Par exemple, la Vénus pudique était vraisemblablement en bronze. On ne connaît que des reproductions des copies faites en marbre. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On est dans les temps. Hein. Ouais. Là, pas toujours dans les temps. Hein. Là, oui, vous avez été remarquable. On ne peut pas dire dans les temps. Voilà, c'était notre première étape. On n'a pas terminé. Bravo à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine.